Moi, ça fait 37 ans que je suis facteur. Je n'attends qu'une chose, c'est la retraite. Et je ne veux pas que ça soit comme ça. Je ne veux pas que la Poste, ça devienne ce qu'elle veut devenir aujourd'hui. J'en veux plus.
Nous devons reprendre en main l'ensemble de ces services publics. Nous assumons, depuis que nous sommes au pouvoir, des mesures qui visent à libérer la croissance.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage sur une grande entreprise publique, une entreprise de proximité pour tous les Français, qui est en pleine mutation. Depuis le 1er mars 2010, La Poste n'est plus un établissement public, mais une société anonyme qui a engrangé l'an dernier plus de 850 millions de profits. Et si la branche courrier-colis compte encore pour 46% du chiffre d'affaires alors qu'elle emploie 54% des quelque 250 000 agents, cette activité historique est en baisse constante, moins 18% entre 2013 et 2016. Au nom de l'adaptation au monde nouveau, on demande de plus en plus de polyvalence aux agents sans qu'ils en comprennent vraiment l'utilité, en dehors d'une course à la productivité. Du coup, la mutation se fait parfois dans la douleur. À Rennes, les postiers sont en grève depuis plus de 3 mois. Entreprise publique en mutation, ouverture à la concurrence, modification du statut des agents. À l'heure où la SNCF traverse ce qui est un peu plus qu'une zone de turbulence, l'évolution de La Poste résonne naturellement aux oreilles des Français attachés à leur service public. La Poste, le profit au pied de la lettre, c'est un reportage de Nasser Maggi avec Marcos Daras et Alexandra Bergel à la prise de son. Rendez-vous sur la plus grande PIC, plateforme industrielle de courrier de France, à Vissous, dans la région parisienne.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour.
Enchanté, bienvenue chez nous.
Enchanté. C'est vous qui allez faire le guide pour moi ?
Il paraît.
Bon, d'accord.
Alors, d'accord. On va vous équiper quand même.
On a besoin de mettre des...
Des bottes un peu, des...
Des coques.
Des coques, d'accord.
Juste le bout.
Donc ça, on peut les mettre sur les chaussures.
Ouais, c'est mieux.
Donc là, on va où exactement ?
Donc là, ici, on va aller dans le hall de production. Donc un hall de production qui fait près de 40 000 mètres carrés, avec plein de machines que je vais vous faire découvrir. Voilà, la grande usine à courrier.
Donc là, il y a combien ? 40 000 mètres carrés, vous disiez ?
Oui, environ. Donc là, ce sont les machines de tri petit format. Donc tout ce qui trie du courrier jusqu'à la taille d'une demi-feuille A4. Et ces machines de tri, là, font 30 mètres de long. Donc c'est des jolis joujoux. 30 mètres de long, ça trie environ 40 000 plis à l'heure. Tout le courrier des boîtes aux lettres qui viennent de Paris, de l'Essonne, du Val-de-Marne, on passe environ 8 millions de plis par jour. Si vous voulez, on peut aller voir à côté des machines, voir comment ça se passe.
Je vous suis.
Donc ici, vous êtes à la PIC Paris-Sud-Vissous, c'est la plus grande PIC de France. C'est des machines qui ont 256 sorties, 256 types de tri potentiels.
Donc là, vous êtes en train de prendre une enveloppe.
Donc, okay. Je vais vous montrer une enveloppe que la machine vient de trier. Donc là, c'est une adresse pour le 11e arrondissement. Donc la machine, elle est équipée d'un lecteur d'adresse. Et toutes ces informations-là, c'est ce que vous retrouvez dans les petits bâtonnets orange que vous avez sur les enveloppes que vous recevez chez vous. C'est un petit peu le numéro de sécu du pli. Je vais savoir à quelle heure il est passé dans les machines à Marseille, dans quel bac il est tombé. Et puis arrivé ici à la PIC Vissous, dans quelle sortie de machine il est parti. Voilà. Donc là, on est arrivé sur le quai départ.
Et là, les camions sont juste derrière, j'imagine.
Ben voilà, vous voyez les portes de quai. Et les camions se mettent à quai et on va charger. Alors, chez nous, c'est principalement du semi-remorque, hein, parce qu'on a les quantités, le volume qui fait qu'on va envoyer le courrier en semi-remorque ou en camion plus petit, notamment pour Paris, parce que les semis ne vont pas rentrer dans les établissements les plateformes de distribution parisiennes qui sont un petit peu exiguës.
Et donc après, c'est aux facteurs de jouer.
Alors effectivement, quand on envoie le courrier vers des facteurs, ça va arriver dans un centre de distribution, ils vont décharger le produit, et après, il va y avoir une répartition par équipe de facteurs, et après, chaque facteur va prendre le bac ou la caissette avec son numéro de tournée. Et il va trier ça sur son casier. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et une autre histoire. C'est exactement ce que vivent en ce moment, au quotidien, un grand nombre de facteurs à la poste. Si l'entreprise doit évoluer, les métiers sont de plus en plus diversifiés et distribuer le courrier ne suffit plus. Nous sommes à Prunay, dans la Marne, tout près de Reims, et nous avons rendez-vous avec une factrice qui ne fait pas que distribuer le courrier, qui a aujourd'hui d'autres missions. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je cherche Agnès Menuet.
Ah, ben elle est là.
Ah, ben voilà.
Ben oui, puisque c'est mon jour de veiller sur mes parents.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Je suis monsieur Madji Nasser Madji de France Inter, journaliste.
Ah oui.
Et vous êtes ?
Madame Dozio, Martine.
D'accord, très bien. Donc c'est vous qui profitez avec votre mari du nouveau produit là, de la
tout
Poste.
Tout à fait.
Vous allez m'expliquer tout ça. Hein ?
Ah, mais je veux bien.
Bon, allez, présentez-moi votre mari.
Alors, mon mari, il est là-bas, avec Agnès.
Voilà. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Voilà. Comment vous appelez-vous ?
Georges Dozio.
Enchanté, monsieur. Et voilà donc ma factrice. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ben, ça va.
Vous pouvez m'expliquer, Agnès, où on est là, aujourd'hui ?
Alors, on est chez monsieur Lame Dozio, à Prunay. Et je viens faire ma visite, veiller sur mes parents.
Ouais. Vous avez le petit badge et tout. Hein.
Oui. Et en fait, les gens qui sont seuls ou qui n'ont pas de famille autour, la visite du facteur, une ou deux fois, trois ou quatre, cinq ou six fois par semaine, ça dépend. Ça leur permet de voir si tout va bien, s'ils ont des besoins spécifiques ou voilà quoi. Et puis ça leur fait de la compagnie.
Vous avez le sourire.
Oui.
Hein ?
Oui, parce que j'aime bien Agnès. J'aime bien ma factrice.
Martine et Georges, comment vous avez découvert cette nouvelle initiative de La Poste ?
Par notre factrice, par la télévision également. Et depuis, même le chien la guette le mercredi. Je vais vous dire que on sait quand Agnès arrive, elle aboie pas, elle sait, il faut que je sois là, on prépare un petit café, on discute, et puis elle nous donne le courrier, et elle nous demande si ça va, si on a besoin de quelque chose ou non. Et ensuite, elle envoie un petit SMS à mes enfants, à nos trois filles, qui, elle dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout va bien.
Martine, ça ne vous dérange pas que ce soit payant, cette histoire-là quand même, parce que notre facteur, normalement, il est là pour discuter, effectivement, pour échanger, mais avant, c'était gratuit, ça, non ?
Oui, mais là, on a quand même de la sécurité en plus. Hein. Et vous savez que les assurances nous ont proposé également le même service en deux fois plus cher.
Et sans passage à la maison.
Et c'est vrai.
Alors, ça coûte combien d'avoir Agnès avec vous ? Je vais passer un quart d'heure officiellement, un quart d'heure
oui.
Par semaine. C'est combien ?
Officiellement ?
Ouais.
Officieusement, elle reste au moins 20 minutes. Hein. En 10 minutes, c'est pas possible. Hein. Bon, elle nous apporte notre courrier, le temps de dire bonjour, de boire le café. Puis voilà, 20 minutes, c'est vite passé, hein.
Comment vous faites, Agnès Menuet ? Vous êtes factrice, vous êtes dans votre activité de factrice amenée donc à surveiller nos anciens. Normalement, c'est 15 minutes.
Oui.
Vous donnez 20, vous donnez sûrement 25 de temps en temps
oui,
aussi.
Oui, j'ai pas plus, ça dépend du temps que j'ai.
Voilà. Vous devez courir derrière pour remplir vos autres missions.
On rentre en retard et puis c'est tout. Hein. C'est pour nous. Si je fais des heures sup, tant pire pour moi. Avant, on était... compenser, maintenant on n'y est plus, mais bon.
Des fois je lui dis, faut que vous y alliez parce que vous allez être en retard. Et ça me tracasse quand même un petit peu parce que je sais que.
Bah oui, parce
c'est
que.
En plus pour nous, c'est pour nous qu'elle le fait.
Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là, Agnès, votre factrice ? Qu'elle passe du temps pour vous, mais c'est pas payé par l'entreprise.
J'ai compris. Voilà. J'ai très bien compris.
On sait toujours pas combien ça coûte, cette histoire, alors. Ça vous coûte combien ?
Ah, ça dépend du nombre de passages.
Pour une visite par semaine, c'est 39,90 TTC par mois. Pour deux visites, c'est 59,90. Et pour six visites, c'est 139,90 ou 69,95 après crédit d'impôt.
Vous allez être à la bourre, là, si ça continue, non ?
Oui. Hein ? Là, je vais être à la bourre.
Faut que vous alliez faire votre tournée, n'est-ce pas ?
Oui.
D'accord. Bon, on va vous libérer, alors, quand même, hein.
Bon, Agnès, on se dit au revoir.
Oui.
Et puis,
Merci de votre passage, ben, c'est gentil. Et puis à mercredi prochain.
Oh, voilà. Je pense qu'on s'en reverra avant, mais bon.
Oui, oui, on va, c'est sûr.
Bon, mais à bientôt. Bon, à bientôt.
La ceinture. Hein.
Madame la factrice, j'ai envie de vous dire bonne tournée.
Oui, hein? Merci.
Au revoir et bon courage à vous.
Merci.
C'est une électrique?
Oui. Allez, à bientôt.
Voilà notre factrice à Pruné, tout près de Reims, ici, dans ce petit village, dans la Marne, a repris sa tournée après sa visite en direction des anciens, veillés sur mes parents. Mais certaines activités que doivent remplir maintenant les facteurs ou les factrices sont beaucoup plus éloignées du cœur du métier de facteur. Exemple, avec la surveillance des examens du code de la route.
Bonjour madame.
Bonjour.
C'est pour le code de la route?
Oui, oui.
D'accord, ben, je vais prendre votre convocation et votre pièce d'identité.
Bonjour.
Alors c'est notre candidat qui est déjà arrivé.
Bonjour jeune homme, ça va? Tu viens passer ton code, c'est ça?
Oui.
T'es un petit peu en avance là, non?
Oui.
Bon, et vous êtes Daniel Thiebaud?
C'est ça.
Comment voilà. Allez-vous?
Très bien, et vous?
C'est avec vous que j'ai rendez-vous?
C'est ça, je pense que c'est ça.
D'accord. Je vais vous emprunter votre examinatrice du code de la route et puis vous la retrouverez tout à l'heure pour votre passage.
Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au guichet.
Ouais.
Hein, et puis je passerai vous chercher tout à l'heure. D'accord.
Ouais, ok.
Vous avez commencé comment? Racontez-nous un petit peu votre parcours professionnel.
Alors, j'ai commencé en faisant des livraisons collecte par la poste. Oh, j'ai dû faire ça 6-7 ans. Et puis après, j'ai été arrêtée pour des maladies. Une grosse maladie que je ne pouvais pas reprendre cet emploi. Hein, j'étais en inaptitude. Alors, la poste m'a trouvé cette place d'examinatrice du code de la route.
Parce que vous étiez un petit peu en invalidité.
Exactement.
Est-ce que je peux le dire comme ça?
Bien sûr.
Donc, vous ne pouviez plus faire votre métier de factrice.
Exactement, c'est ça. Je pouvais plus porter. J'ai plus le droit de porter de charge. Je suis bien contente que la poste m'ait trouvé ce poste, quoi. Voilà, c'est un autre métier. C'est un autre emploi, quoi.
Alors, c'est quoi votre métier aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, je suis examinatrice du code de la route.
C'est très éloigné de ce que vous faisiez avant.
Ah, ben bien sûr. Ah, ben oui. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est d'apprendre plusieurs corps de métier comme ça. C'est super. Je suis fière de faire passer le code de la route. J'aurais jamais pensé pouvoir le faire un jour. Parce que quand ils en ont commencé à en parler, je me suis dit, ça, c'est pas pour nous. C'est pas, au moins pas pour moi. Et puis, quand j'ai été parachutée dans cette. Eh bien, moi, j'étais bien contente. Maintenant, je suis contente.
Si je vous suis bien, c'est quelque chose de valorisant pour vous.
C'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Et ma collègue, elle vous dirait la même chose.
Allez. Alors, vous avez des petits casiers, là. Pour mettre vos sacs, vos portables en mode vibreur, s'il vous plaît.
Oui.
Vous me gardez juste votre convocation avec vous. Et prenez place où se trouve une tablette. Allez-y. Et tout à la fin, vous aurez une petite enquête de satisfaction. Et ben voilà. Nous y sommes.
Là, ça va commencer.
Ça va commencer.
Voilà,
maintenant,
c'est.
Maintenant, vous êtes obligés de sortir.
Et ben, on y va. Bonne chance à tous.
Bonne chance.
Merci, madame.
Mais il n'y a pas de quoi. Au revoir.
Interception, magazine de reportage de France Inter.
Retour à Paris, nous sommes au siège de la Poste, où se tient, comme tous les ans, le Lab Postal. Lab comme laboratoire, c'est un salon sur les innovations imaginées par l'entreprise publique. L'occasion pour nous d'aller interroger Nicolas Routier, directeur de la stratégie du groupe La Poste.
Bonjour monsieur Routier, on se met là, ça vous va? Ça vous dérange pas? On est aujourd'hui sur un salon qui dure 2 jours, qui est un peu particulier. Est-ce que se dessine ici une partie de l'avenir de la Poste?
Bien entendu, nous sommes dans une logique d'innovation, nous sommes dans une logique de renouvellement de nos métiers.
pour tester les idées les plus originales, celles qui donneront les business et les missions de demain.
Est-ce que ce n'est pas finalement aujourd'hui toute l'entreprise qui est une espèce d'énorme laboratoire où se multiplient un peu les expériences sur le terrain, les expérimentations ?
La Poste est effectivement dans une très grande transformation, fort heureusement, parce qu'elle doit faire face à la très forte diminution des volumes du courrier et aussi à la profonde transformation des usages. Donc elle se transforme pour ses salariés, pour leur donner un avenir. Elle se transforme aussi pour tous les Français, pour rester une entreprise utile qui rend des services d'aujourd'hui, qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut bouger, il faut se transformer, il faut innover.
Quand on est facteur aujourd'hui, Nicolas Routier, on peut visiter les personnes âgées, on peut relever des compteurs, on peut surveiller la voirie, on peut faire passer le code, on peut faire des bilans énergétiques, on peut livrer des médicaments, on peut collecter du papier pour recyclage. Enfin, je vais m'arrêter là. Ça part un peu dans tous les sens quand même. Il est où, justement, le sens du métier quand on est obligé, comme ça, d'assumer une polyactivité ?
Depuis 2008, le courrier baisse de 6 à 7% par an. Pour être très concret, le pourcentage est un peu abstrait. On avait 18 milliards de lettres en 2008, on en a 11 milliards cette année. On en aura 9 milliards en 2020, peut-être 5 ou 6 milliards en 2023 ou 2025. Donc vous comprenez l'ampleur du défi pour nous et la nécessité de réagir, de renouveler nos missions et nos services.
Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent, les multi-activités, la façon de diversifier les métiers aujourd'hui ? Pas énormément, manifestement, parce que tout ne fonctionne pas bien. Ça rapporte quoi ? 80 millions, 100 millions d'euros par an environ ? Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup, si vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr, nous faisons 24 milliards de chiffre d'affaires, parce que nous sommes un grand groupe. Mais sur ces nouveaux services, regardez, ils sont passés de 0 à plus de 100 millions en quelques années. Si c'était une start-up, on qualifierait ça de réussite exemplaire. C'est pas évident de passer de 0 à plus de 100 millions en si peu de temps. Donc c'est une vraie réussite, et puis on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc oui, ce sera très utile et même indispensable demain dans l'équilibre de notre activité pour garder un réseau de proximité, notamment un réseau de facteurs qui couvre tout le territoire tous les jours.
Local Sud. Ah bah vous connaissez.
Oh ben je vous vois arriver avec votre micro. Alors, vous allez prendre l'ascenseur, vous allez monter au rouge, c'est tout en haut. En sortant de l'ascenseur, vous allez voir sur le même mur que les ascenseurs, il y a une porte sur votre droite. Vous prendrez cette porte et vous monterez à pied jusqu'en haut.
On vient pour la grève des postiers.
Oui.
Ah oui, vous en doutez.
Je me doute bien.
Les réorganisations à la Poste provoquent une multiplication des conflits sociaux chez les facteurs. En Bretagne, à Rennes, où on se trouve, la grève a commencé le 9 janvier dernier. Avant de rejoindre une manifestation dans le centre de la ville, rendez-vous est pris avec un représentant syndical.
Arnaud Bordier, je suis facteur à Rennes-Crimée, représentant Sud sur mon bureau et secrétaire départemental adjoint en Ille-et-Vilaine.
La grève a commencé le 9 janvier. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi vous faites grève ? C'est à cause de la méridienne, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. En fait, on décale un petit peu vos horaires de travail ?
C'est ça. Alors, il faut essayer de comprendre. On n'a pas un travail en bureau, en intérieur. On a vraiment un travail du lundi au samedi. Par tous les temps, on est dehors. Donc aujourd'hui, mon travail, si vous voulez, c'est de distribuer tout le matin. Je sors une seule fois dehors, après avoir préparé ma tournée. Et les conditions de cette méridienne, ça nécessiterait que je retourne à mon bureau le midi et que j'y retourne l'après-midi. Et le problème avec cette organisation de travail, qui a certainement été pensée par des gens qui n'ont jamais fait facteur, c'est qu'entre la fatigue, la nécessité de distribuer le courrier à tout le monde, et puis nos salaires qui sont très bas, retourner une fois de plus dehors, on pense que physiquement on ne tiendrait pas le coup. Depuis que je suis arrivé, ça doit être ma 6e réorganisation au bureau, vous imaginez. Quand je suis arrivé dans ce métier, il y avait 43 tournées à mon bureau.
C'était quand ça ?
En 2001-2002. Aujourd'hui, il n'y a plus que 28 tournées. En 10 ans, à la Poste, il y a 100 000 positions de facteurs qui ont disparu. 100 000. 100 000, c'est même plus un plan social, là. C'est vraiment une destruction d'emploi, hein. Encore cette année, on a perdu 7 000 facteurs, donc.
C'est aussi pour cela, d'après vous, que la direction engage ces réorganisations, c'est pour accroître la productivité.
Effectivement, elle a une logique de productivité et de rentabilité. Elle est passée en société anonyme. Je rappelle quand même la distinction, elle est importante. Quand je mets une lettre dans votre boîte aux lettres, vous êtes pour moi un usager. Vous ne m'avez pas payé, c'est le service. Ce que voudrait la Poste, c'est qu'à la place de mettre une lettre, je vous propose un service commerçant, un service marchand, et là vous deviendrez un client. Et pour elle, sa logique de nous faire travailler l'après-midi, on le sait, c'est de nous faire passer pour des vendeurs de services. Et ça, on n'est pas d'accord. Parce que l'activité commerçante, c'est une chose. Le service public postal, c'en est une autre, quoi.
Dans son métier, dans tous les métiers, on finit par évoluer.
Bien sûr.
C'est aussi parfois l'ordre des choses, non ?
C'est bien beau de me dire que je dois évoluer dans mon métier. Moi, mon salaire n'a jamais bougé. Il reste entre 1300 et 1400 après quasiment 20 ans d'expérience. La Poste, elle crée toute une série de nouveaux services qui rapportent. Mais le facteur devrait travailler et le matin et l'après-midi avec le même salaire toute la semaine. Lui, il ne voit pas d'évolution si ce n'est vers le bas de ses conditions de travail. La Poste, elle est en train de tuer non seulement le métier de facteur, mais elle est en train, à petit feu, de tuer le facteur.
Les usagers contre la Poste, tout le monde en a marre de nous priver. Dans la Poste et dans la rue, on en a ras-le-bol. Donc à nous,
bonjour.
Bonjour.
Bon, c'est un rassemblement pluvieux aujourd'hui, hein.
Ben, c'est nos conditions de travail aussi. On continue même sous la pluie.
On est devant la direction régionale ici à Rennes. Vous êtes postière en grève.
Oui.
C'est quoi votre nom et votre prénom, madame ?
Ah, moi, je suis Sophie Landau.
Ça fait combien de...
Ça va faire 27 ans que je suis à la Poste.
Vous avez peur de cette perte de lien social que vous avez, j'imagine, cultivé avec vos usagers, comme vous dites, depuis
Bien sûr.
Toutes ces années de carrière ?
Régulièrement, vous avez des ETC, qu'on appelle ça, c'est des entretiens. La première chose dont on nous parle, c'est du chiffre. La Poste fait encore du bénéfice avec moins de personnel. Donc où va-t-il ce bénéfice ? Où est-ce qu'il est investi ? Dans les super machines ? On ne va pas trop comprendre, puisque super machines, moins de personnel, moins de courrier. Est-ce que c'est simplement l'investissement qui n'est pas bien géré ? Peut-être que c'est peut-être cette chose-là, tout comme à la SNEF. On remet toujours ça sur le personnel, mais est-ce que les gestionnaires de cette entreprise-là, ne font pas de bons calculs et de bons investissements, tout simplement.
Ouais, vous dites la SNEF, vous.
Oui, oui, bah, je suis une petite vieille.
C'est vrai que ça résonne un peu ce qui se passe en ce moment aussi à la SNCF.
Bien sûr, si c'est le même système que nous. On veut absolument faire de la SNCF une société anonyme comme nous. Alors oui, ça fait du chiffre, oui. Mais les conditions de travail, dans toute la France, vous pouvez le constater, ce sont les employés qui trinquent. Donc, on va aller jusqu'où comme ça, faire de l'argent soit, bah pourquoi pas, mais à quelles conditions ? Si c'est pour avoir des suicides, des arrêts de maladie, parce qu'on en voit aussi, et c'est de plus en plus. Est-ce qu'on doit continuer comme ça ? Je ne suis pas convaincue.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes aussi gréviste depuis le début, non ?
Oui, je suis gréviste à Rennes-Crimée depuis bientôt 80 jours.
Vous pouvez vous présenter
Je m'appelle Éric Jeanneret et je suis facteur depuis 37 ans.
Comment on fait quand on est gréviste depuis 80 jours ? La fiche de paie, ça doit être un petit peu dur à la fin du mois.
Ce mois-ci, c'est 11,19 €. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai touché 11,19 € puisque je ne travaille pas depuis le 9 janvier.
Est-ce que ça refroidit quand on voit ça quand même, non ?
Ah non, pas moi, ni mes collègues. Nous, au contraire, ça nous met encore plus de haine. Ah là, je suis déterminé. Et je suis d'autant plus déterminé que j'ai une fille qui a 25 ans, une autre qui a 22 ans. Et je vois la galère que c'est pour eux pour trouver du boulot. Je vois les CDD qui sont à la Poste, comment ils bossent, avec quel mépris ils sont pris. Bien, ils font tous les boulots de merde à des salaires de merde. C'est proprement scandaleux. Nous, on demande à ce qu'ils soient CDIsés. Parce que du boulot à la Poste, il y en a.
Vous reconnaissez pas votre entreprise ?
Ah non, bah moi ça fait 37 ans que je suis facteur. J'ai commencé à travailler dans une boîte qui s'appelait les PTT. Franchement, le management, c'était autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Franchement. Moi, je suis dégoûté. Bah, ils le savent, je leur dis tout le temps. Je n'attends qu'une chose, c'est la retraite. J'en peux plus. Moi, j'ai 55 ans. J'ai plus envie de bosser. J'ai envie de foutre le camp. J'ai envie d'arrêter, j'en ai marre. Et je vois des collègues là qui bouffent des médocs parce qu'elles sont en train de déprimer. Mais c'est des gens qui n'ont même pas 30 ans. C'est pas possible. Il faut que la Poste, il faut que les dirigeants de la Poste écoutent ce que les salariés ont à dire dans cette boîte.
Le taux d'absentéisme est très important chez les facteurs.
Actuellement, vous prenez un bureau comme Jean Zé. Ils sont passés dans la nouvelle réorganisation depuis le mois d'octobre, je crois. Ils ont eu, au bout d'un mois, un mois et demi, 12 arrêts de travail. Là, à Dinard, là, ils y sont depuis un mois, c'est pareil. C'est pas pour un mal de dos, pour une grippe ou pour quoi que ce soit. C'est mis souffrance au travail.
Donc ça vaut le coup d'avoir que 11 euros à la fin du mois, quoi.
Ah oui. Puis vous savez, moi, j'ai 37 ans de boîte, je suis à 1490 € net par mois. Ça fait bientôt 20 ans que je vis avec 1000 € de découvert tous les mois. Or, c'est pas ça qui va m'arrêter. Il y a de la solidarité dans le pays. Et on se démerde comme on peut, mais on y arrivera, et puis de toute façon, on s'aidera. Merci.
Dans la rue, les facteurs manifestent, dans les gares, les cheminots sont en grève, mais c'est toute la fonction publique qui traverse une zone de turbulence et c'est loin d'être terminé puisque au Parlement se prépare en ce moment ce que le Premier ministre a appelé un Big Bang de la fonction publique. C'est un projet de loi qui devrait voir le jour en début d'année prochaine avec à la clé une transformation profonde des services publics à la française, comme on dit. Pour en parler, nous sommes à l'Assemblée nationale, à Paris, et nous allons rencontrer l'un des porte-parole du groupe En Marche, c'est Gilles Legendre. Bonjour Monsieur Legendre.
Les sirènes témoignent que nous sommes ponctuels.
Absolument, franchement, on ne peut pas mieux. Hein.
Voilà,
bien.
On se met là-bas, ça
on se met là-bas. On va s'installer, il y a une petite table sur le côté là qui est parfaite pour les interviews.
Très bien. Bonjour Monsieur.
Vous arrivez de la Commission des Finances ?
Voilà, exactement, je vais sécher la femme, c'est pas grave.
Comment la majorité, Gilles Legendre, aborde la refondation de la fonction publique au-delà de la suppression des 120 000 postes de fonctionnaires qui ont déjà été annoncés par Emmanuel Macron avec le climat social qu'on connaît, les cheminots en grève et les postiers dans la rue?
Alors, nous devons repenser l'organisation de l'action publique de façon à stopper une dérive que nous avons observée depuis maintenant de longues décennies qui fait que pour des coûts de plus en plus élevés, le service rendu aux citoyens est d'une qualité de plus en plus médiocre. Nous devons reprendre en main l'ensemble de ces services publics et pas uniquement pour dégager des économies. La Poste a un problème spécifique qu'aucune entreprise privée ou publique ne pourrait supporter aisément. Elle a un chiffre d'affaires sur une part essentielle de son activité, qui est l'activité courrier, qui baisse en gros de 6% par an. Imaginez qu'une grande chaîne de distribution ou qu'un grand constructeur automobile voit chaque année, année après année, son chiffre d'affaires baisser de 6%. C'est juste insupportable. Évidemment,
les colis, pardonnez-moi, c'est plus 8%.
Voilà,
d'accord.
Les colis, c'est un moyen, mais ça ne compense pas intégralement la baisse du chiffre d'affaires du courrier. Et donc, il faut trouver des activités relais. Elle a une chance.
Monsieur Legendre, le bénéfice net de la Poste, c'est 832 millions d'euros sur 24 milliards de chiffre d'affaires.
Oui.
Donc, le bénéfice, il est là aujourd'hui à la Poste.
Il est là, et heureusement qu'il est là, parce que c'est la seule condition qu'une entreprise comme la Poste a d'investir.
Gilles Legendre, porte-parole du groupe En Marche ici à l'Assemblée. Ça coûte combien du lien social, de la cohésion nationale, de la solidarité? Ça a un coût, ça, vraiment?
Oui, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, nous assumons, depuis que nous sommes au pouvoir, des mesures qui visent à libérer la croissance. Et libérer la croissance, c'est permettre aux entreprises de se développer et de croître. Ce que nous payons aujourd'hui, c'est le fait que précisément la France a trop attendu pour engager ces transformations. Le temps presse.
Bon, bah écoutez, je file, je suis désolé.
Bon, je vous en prie.
J'espère que vous aussi. Ça passe quand?
Dimanche 20h de l'avril.
Ici, dépôt de billets.
Oui.
Continuez, vous insérez les billets ici, vous validez.
Super.
Vous pouvez éditer les RIP, faire des consultations de soldes, demander même un chéquier.
Donc vous retirez du personnel, vous mettez des machines.
Oui.
Mais après, il y a des gens qui ont besoin de travailler.
Oui, mais bon.
C'est dommage. Enfin, mais après, ça va être pareil hein, maintenant.
Nous n'avons pas le choix d'essayer.
Voilà.
Voilà, il faut faire avec.
Ok, merci.
Malgré les réductions d'effectifs, malgré les réorganisations successives, la Poste continue d'assumer vaille que vaille ses missions. La Banque Postale est un bon exemple des efforts fournis par l'entreprise et surtout par ses salariés pour la continuité du service public. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine, dans un des bureaux de poste de Gennevilliers, c'est tout près de Paris.
C'est le bordel à la Poste.
Ah ouais, bah oui, il y a trop de queue.
Vous êtes habitant de Gennevilliers, vous?
Oui, ouais, habitant depuis 30 ans. J'ai jamais vu ça, moi. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. C'est désolant. J'ai appris maintenant par la dame qu'ils vont ouvrir que l'après-midi.
Comment vous vous appelez, monsieur?
Moi, je m'appelle Hamid. J'habite aux Agnettes. Et fier d'être Gennevillois, heureusement.
Vous êtes à la Banque Postale?
Oui. Je la connais, je suis dedans depuis extant, hein. Ça date. Hein. Qu'est-ce qui a changé à la Banque Postale? Manque de personnel. Pas manque de compétences. Manque de personnel. C'est la raison qui explique que les gens y râlent. Et surtout dans les quartiers défavorisés, les gens ils sont pressés. Comme aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de monde qui vont toucher leur allocation, on est le 6. Donc ça vient, ça fait l'accueil, ils sont pressés tout le mois, ils n'ont pas d'argent, ils touchent 2 centimes, ils sont contents de venir, ils sont pressés de les toucher. Et aller à Carrefour faire les courses, voilà, vous comprenez. Et on a 80% presque de la population qui sont au chômage. Par contre, la Poste, moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est la moins chère du marché, elle vous propose des cartes gratuites.
Ce qui est pratique aussi, Hamid, c'est qu'on peut déposer des toutes petites sommes. On peut même retirer quelques euros, ça arrive parfois pour les gens ici. Ils retirent juste quelques euros.
Bah ça m'est arrivé, j'ai tiré 1,50€.
Vous avez retiré 1,50€
Ouais. En fait, ça m'est arrivé, j'avais un problème de paiement et un problème de virement. J'arrive, elle me dit, vous avez 1,50€. Je dis, est-ce que je peux y tirer? Il m'a dit, oui, vous pouvez y tirer, monsieur. Ah bon, bah vas-y, donne.
Ça, on ne peut pas faire ça dans une autre banque.
Impossible. Hein. Non, on peut pas. Non, ils ne le font pas, les autres banques. Donc, c'est vrai, il y a un service public qui est bien. Par contre, il y a un problème. Ah oui. Quand on téléphone au service financier, ça nous coûte de l'argent. Il faut qu'ils améliorent ça, au fait.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci.
On va aller voir une conseillère ou un conseiller pour... Oui. Pour voir un petit peu comment on travaille dans un bureau de poste comme celui-ci, 700, 800 personnes par jour. Hein. On va aller voir la conseillère là-bas. On va pas vous déranger très longtemps, mais je discutais avec ce monsieur, ce client que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hamid. Il disait à l'instant, ils sont bien les conseillers à la poste, mais ils sont pas assez nombreux. C'est une bonne poste, mais manque de moyens humains. Ça vous fait plaisir et en même temps, il y a une vérité qui est dite là.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui.
Vous vous appelez comment, madame ?
Isabelle.
Vous considérez que c'est un établissement spécial ? Vous rendez une mission de service public ? Vous avez ça à l'esprit, hein ?
Tout à fait. De toute façon, si je suis venue travailler à la poste, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est soit on aime le contact avec les gens, soit on n'aime pas, mais voilà. Pour faire ce métier, il faut aimer.
C'est un public qui est un petit peu défavorisé, on le sait. On est à Gennevilliers, c'est une ville... qui est probablement l'une des villes les plus pauvres de France. Comment vous faites pour interagir ? Ça ne doit pas être facile pour vous non plus tous les jours, non ?
Oui, mais il faut se mettre aussi à la place des gens, quoi. Moi, si j'aurais voulu travailler dans un autre bureau de poste, bah, je serais partie d'ici. Ça fait 15 ans par choix que je suis ici, donc j'aurais eu la possibilité d'aller ailleurs. Je n'ai pas été. Je préfère ici, quoi. Au moins, on a l'impression de se sentir utile et d'aider les personnes. Ça, c'est surtout ça le plus important, c'est ne pas perdre le lien social aussi avec les clients.
Vous voulez aider les gens ?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Vous êtes fonctionnaire, vous ?
Oui, je suis encore un dinosaure.
Il n'y en a plus beaucoup à la poste, fonctionnaires.
Non.
Interagir avec les gens, c'est ce qui vous plaît aussi ?
Oui, c'est ça.
Même si c'est parfois un peu galère, c'est un peu dur parfois, non ?
Oui, bien sûr, je ne vais pas dire que c'est une partie de plaisir de travailler. Quelquefois, on vient travailler ici, on se fait agresser, insulter. Si j'étais payé au nombre d'insultes, je crois que je serais riche. Je viendrais travailler avec un sourire, mais béat, quoi. Mais bon, c'est pas parce que la personne nous insulte que forcément elle est mauvaise.
Interception sur France Inter.
Vous avez la carte de votre compte ? Vous avez la carte ?
Appel envoyé, parler après le bip.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Madji de France Inter.
Troisième étage.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir.
De rien. Bienvenue.
Merci bonjour. Beaucoup. Merci, merci.
Bon, ouais. On s'installe, vous voulez une table ? Vous avez besoin de vous mettre sur le canapé ?
C'est pas mal sur une table comme ça. Hein, voilà. On sera plus à l'aise, je pense, pour discuter. Je pourrais installer mon matériel.
Super. Nadège Vézina, sociologue à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Je suis une spécialiste de la poste, des transformations des services publics et des recompositions de l'État.
Quand on parle de la poste, aujourd'hui, on évoque souvent sa transformation, sa restructuration, mais ça fait déjà plusieurs années que l'entreprise publique a engagé cette évolution-là. On peut la dater.
Une transformation très forte, c'est bien sûr le changement de statut. C'est 90, quand la poste passe d'administration d'État à entreprise publique. L'autre transformation importante, c'est 2010, la transformation en société anonyme, détenue uniquement par des fonds publics, 100% public, mais...
Via la caisse de dépôt et consignation.
Exactement. Mais c'est un premier pas vers une sorte de libéralisation et les plus virulents vous parleront déjà de privatisation.
Oui, c'est là que ça commence quand même à s'accélérer, que les réformes se multiplient et que la souffrance au travail est révélée au sein même de la Poste, puisque c'est là qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de suicides et aussi pas mal d'absentéisme.
Ça a été mis en avant par le rapport Caspar de 2012, qui met en avant des conditions de travail dégradées, je crois que c'est ces termes, et qui explique que c'est extrêmement compliqué à la Poste parce qu'elle est soumise à des injonctions contradictoires avec des missions qui vont dans des sens différents. D'un côté, vous avez des missions de service public à remplir qui sont prévues dans ces contrats de plan. Et d'un autre côté, vous avez des missions commerciales, marchandes. Et c'est extrêmement compliqué parce que d'un côté, il faut vendre et d'un côté, il faut conseiller pour des conseillers financiers de la Banque Postale, par exemple. D'un côté, il faut assurer sa tournée, faire du lien social pour le facteur. Et en même temps, il faut quand même assurer des ventes, aller plus vite, passer moins de temps, être productif. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'en 2010, l'État s'est engagé dans une restriction de ses aides aux missions de service public. Donc la compensation de l'État se réduit. Pour vous donner un exemple, sur les compensations financières au titre de l'accessibilité bancaire, en 2015, elles étaient de 235 millions d'euros. En 2020, il est prévu de ne donner à la Poste, au titre de compensation, que 150 millions. Donc vous passez 235 millions en 5 ans à 150 millions d'euros. Où trouver les millions d'euros manquants ? Bien dans ces nouvelles activités que la Poste essaye d'implanter avec la cyber économie, la Poste digitale, mais on est finalement dans des bribes de diversification qui commencent. On ne sait pas encore si ça va prendre ou pas, mais la Poste est finalement un tournant. Je pense les missions de service public, pour l'instant, se reportent beaucoup sur les agents. Ça va pas pouvoir, ils vont pas tenir, puisque le mal-être, les conditions de travail dégradées font qu'à un moment donné, il faudra passer à un autre niveau. Il faudra sans doute aussi acter que des missions de service public soient sacrifiées. Lesquelles ? Comment ? Dans quelles conditions ? Est-ce que c'est acceptable ? Pas acceptable ? Et les 5 prochaines années vont être décisives.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Michel Lowe, c'est moi.
Comment allez-vous ?
Bah, ça va.
Ça va ?
Un peu speed. Mais...
Comment allez-vous ?
Ah, d'accord, on va mal parce qu'on essaye de lutter.
Eh bien, vous allez nous raconter tout ça.
Ah, bah, c'est bien.
Il faut savoir que la Poste a une mission d'aménagement du territoire. Elle est contrainte de garder un maillage très précis d'au moins 17 000 relais clients en France. Mais dans le même temps, l'entreprise publique a tendance à contourner cette obligation et elle supprime des bureaux de poste en les remplaçant par de simples points de contact. Alors on voit un peu partout en France fleurir des associations d'usagers pour demander une continuité du service public. C'est ce qui se passe ici à Château-Gontier, où le bureau de poste de Bazouges est menacé. C'est dans la Mayenne, entre Laval et Angers. Et on va aller à la rencontre du collectif de défense et de développement des services publics. Bon, le collectif pour la défense des services publics est au complet. En tout cas, il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans cette salle communale de Bazouges, plusieurs dizaines de personnes. Michel Blau, vous qui êtes un peu la porte-parole des usagers de cette poste, à quel moment vous avez décidé de vous mobiliser ?
Alors, c'est parti du fait qu'au niveau de la poste, sur la localité, donc, il est annoncé la fermeture du bureau de poste pour le 1er juillet prochain.
Moi, je suis venu aux deux rassemblements qui ont été organisés devant le bureau. Je peux vous garantir qu'il y a toujours eu du monde à passer dans le bureau pendant les rassemblements qui ont duré 1h30, 2h. Il y a toujours eu. Et là, je viens de passer devant. Il y a 5 personnes dans le bureau, là, en ce moment, parce que j'habite aussi dans le quartier. Quand je viens, je fais toujours la queue. C'est vrai, hein, je vous garantis que c'est vrai.
Et je vous crois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Comment vous vous appelez, monsieur ?
Je m'appelle Jean-Jacques, je suis un retraité de l'éducation nationale.
Monsieur ?
Moi, je suis un usager de la poste fréquemment. Je veux avoir en face de moi de l'humain. Du guichetier, partout où je vais, je ne veux voir que des personnes physiques en face de moi.
Vous avez vu, tous autant que vous êtes, l'évolution au fil des années de moins en moins de services publics.
Le service du cadastre, le service des hypothèques sont déjà partis à Laval. On ferme, parce qu'on n'a plus les moyens. On va arriver dans la période de déclaration d'impôt sur le revenu. La Poste n'est pas folle, elle s'est engagée là-dedans. Vous savez qu'elle propose à nos anciens, qui n'ont évidemment pas tous un ordinateur, de passer leur déclaration d'impôt sur le revenu. Mais ce service qui était gratuit au ministère des Finances sera facturé 50 euros. À chaque fois qu'un service public disparaît au profit du privé,
ça coûte toujours plus à l'usager. Prenez l'exemple de Paris, de Bordeaux, Toulouse, Nantes. Les fermetures des postes, c'est ça, hein. On oblige les gens à aller ailleurs.
En ville ou en campagne, en ce moment, avec,
Bien sûr.
C'est quoi votre prénom, monsieur, et votre nom ?
Gérard.
Gérard.
Oui.
Ancien inspecteur des finances, c'est ça ?
Non, pas inspecteur. Contrôleur, ce sera pas mal.
C'est déjà pas mal, hein.
Oui, c'est pas mal.
Ça vous fait peur, la désertification, à certains ?
On est complètement abandonné, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui est parti dans le coin en termes de services publics ? Je sais pas, des tribunaux,
ça
centres des impôts ?
C'est une manière d'attente.
Ça compresse. D'année en année, ça s'aggrave. C'est pas pour moi, parce que moi, vous savez, j'ai 70 ans, ma carrière, elle est faite. Mais pour les enfants et nos petits-enfants, c'est pénible. S'ils sont obligés de tous partir à la ville, pour faire quoi ?
Madame Blot, en entendant, en faisant un petit peu ce tour de table, on se dit que c'est pas la joie, quoi.
Ben non, c'est pas la joie, non, parce que là, on se rend bien compte qu'on est attaqué de partout, parce que, comme disait le monsieur, là, il y a les services postaux, mais il y a aussi tout ce qui est service public, hôpital, il y a l'éducation nationale aussi, hein, où on est confronté à des fermetures de classes au niveau du département. Forcément, ça inquiète la population locale. Tout à l'heure, vous posiez la question sur la désertification en rural. Moi, je dis que ça pose un problème au niveau de l'équité du traitement des citoyens, parce que là, on dit... voilà.
En termes d'aménagement du territoire.
Exactement. C'est de plus en plus vers les mégapoles. Alors, M. Macron, il prône les mégapoles, mais alors on laisse mourir tout ce qu'il y a autour, quoi. Alors qu'il y a une population, quand même, en campagne, hein, qui vit de l'agriculture, qui vit d'industrie aussi, parce qu'il y a aussi des entreprises. Et donc, moi, ce que je dis aussi, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise privée sans service public et il n'y a pas de service public sans entreprise privée. Donc, à un moment, il faut arrêter l'hémorragie, il faut dire stop. On veut des services publics de proximité dans les zones rurales et qu'on arrête de désertifier, justement, ces zones rurales qui vivent encore, hein, qui vivent très bien, d'ailleurs.
Enchanté.
Pardon.
Attention, tombez pas.
Non, j'aime pas dominer comme ça. Allez-y.
Merci.
Vous avez eu mon message, vous ?
Oui, absolument.
Je suis désolée, mais j'étais en rendez-vous extérieur.
On peut vous suivre, du coup ? Vous allez prévenir, monsieur le maire, allez-y.
Bonjour.
Ça va ?
Bonjour, monsieur le maire.
Ça va ? Ça va, merci de nous recevoir, de prendre quelques minutes pour parler de ce grand dossier.
Oh bah, grand, je ne sais pas par quoi il est grand, mais...
Non, mais je suis ironique, mais vous savez qu'on vient de passer une heure avec ce collectif et puis beaucoup d'habitants de votre commune.
Oui.
Bon, c'est sérieux quand même, cette histoire. Hein. On en parle ?
On va en parler.
Vous pouvez vous présenter, monsieur le maire ?
Donc, Philippe-Henri, maire de Château-Rontier.
Et donc, de la Bazouge.
Et donc, le nom d'usage, c'est Château-Rontier-Bazouge, tout à fait.
Combien d'habitants ?
On est 12 000, un peu plus de 12 000 habitants.
Donc, quand on vous dit désertification, c'est quelque chose qui vous parle. Vous faites évidemment attention à ce que ça n'arrive pas dans votre commune.
On a un phénomène qu'on rencontre depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est aujourd'hui ces grandes sociétés nationales qui quittent les territoires. Donc, on a une gare et on avait aujourd'hui un guichet SNCF donc, qui a quitté le territoire. On a eu les réformes liées notamment... En ce qui concernait la justice, avec le départ du tribunal d'instance pour rapatriement des effectifs et des services sur Laval. Et aujourd'hui, la Poste qui continue son déménagement du territoire sur des bassins qui sont quand même relativement denses.
Est-ce que la Poste est allée vers vous et vous a dit on va fermer le bureau de poste ? Comment ça s'est passé ? Vous l'avez appris ?
On ne l'apprend pas. Vous savez, c'est quand, comme le médecin vous annonce une maladie. C'est une maladie évolutive qui fait qu'il y a déjà plein d'années où on vous a expliqué qu'on va réduire un peu l'amplitude horaire, qu'un jour, s'il y a un agent qui tombe malade, il ne sera pas remplacé. Mais ce n'est pas grave, ça tombe pendant les congés d'été, donc on ne le remplacera qu'à compter de début septembre. Et on essaye d'ouvrir le bureau là où on est sûr de croiser personne, c'est-à-dire de le faire vraiment à un moment où les gens n'en ont pas besoin. Et au fur et à mesure où on éteint l'accès au service, bah, automatiquement, les gens s'organisent autrement et donc ils vont voir ailleurs. Et après, on va vous justifier la fermeture parce que la fréquentation a baissé.
Qu'est-ce que vous répondez à vos administrés qui se sentent abandonnés par l'État juste par le fait de la fermeture de ce petit bureau de poste, ça crée une angoisse chez beaucoup d'usagers et beaucoup d'habitants.
Ce sentiment aujourd'hui d'autisme, c'est-à-dire ce sentiment aujourd'hui de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, fait qu'on remet en question l'autorité politique, parce qu'on se dit à quoi on sert. Et deux, et ça on le sait dans toutes nos campagnes, dans tous nos territoires, ce sentiment d'abandon, il se transcrit systématiquement par des votes qui disent « cette société-là, on n'en veut pas, on ne nous écoute pas ». Et donc ça, il faut que nos responsables l'entendent, parce que plus on ferme de guichets, plus on éloigne le service de santé de la population, plus demain, ces gens-là, aujourd'hui, vont se tourner vers des sensibilités politiques qui sont des expressions de rejet et d'abandon.
La Poste, le profit au pied de la lettre, c'était un reportage de Nasser Maggi. Prise de son Alexandra Bergel et Marcos Darras, mixage Valentin Azan, réalisation Stéphane Combe, assisté d'Elisa Mchin. À la semaine prochaine.